Les mains dans la pop.
Ok. Les mains dans la pop.
C'est les mains ?
C'est ma nouvelle obsession.
Mais dans la pop.
Bonjour et bienvenue dans Les mains dans la pop. Ici au micro, c'est Mao Drama et à ma droite, il y a
Audrey.
Et à ma gauche, il y a
Koumbis.
Aujourd'hui, on va parler actu, tendance et décryptage de la pop culture, mais aussi gloire et déboire des célébrités qu'on aime et qu'on déteste aussi en secret. En tout cas, vous pouvez lâcher les réseaux, on scrolle pour vous. Alors cette semaine, chers amours, dans Les mains dans la pop, c'est l'épisode 20, un chiffre tout rond pour marquer un événement tout rond. Le fait que c'est le jour de joie, jamais 203, la troisième moitié de ce podcast. Koumbis est avec nous. Et à mes côtés, bien sûr, comme je le disais, nous sommes toutes les trois autour de cette table. Il y a Audrey. Comment vas-tu, Audrey, cette semaine?
Ouais, je suis toujours là. Ça va très, très bien. Je suis vraiment ravie que Koumbis soit à nos côtés et que le trio soit réuni, quoi.
Après une nouvelle très ronde, en gros, j'ai essayé de faire une métaphore filée sur le fait que t'as été enceinte et que t'as donné la vie. Bonjour, Koumbis. Comment ça va?
Ça va très bien. Je n'ai pas poussé la vie. On est venu la chercher comme j'ai eu une césarienne. Mais c'était vraiment très chouette. J'étais un peu stone. Donc, on me dit, ça va? Je disais, oui, ça va. Et puis j'ai vu mon fils, je lui ai fait coucou, il est parti chez ma sœur et voilà.
Et ton fils, dont on a eu d'ailleurs la chance de voir des photos, qui est évidemment le plus beau petit garçon qui n'est jamais né. Voilà, il s'agit de mettre cette nouvelle recrue dans de bonnes conditions. Petite bio, parce que t'as un parcours génial et ce serait intéressant que les auditeuristes puissent savoir ce que t'as fait avant. Est-ce que tu veux raconter ton parcours en deux mots? T'as fait une grande école de journalisme. Attends, déjà tu viens d'où? Tu viens de?
De Belgique,
voilà.
Bruxelles, la capitale des frites et des bonnes gaufres bien moelleuses.
Absolument. Ce qui fait que Koumbis dit souvent des phrases comme c'est parce que je suis belge en fait. C'est la fin de la phrase. Mais c'est pour excuser.
Et je dis vraiment fort les R. Voilà.
Du coup, après, t'as fait une école de journalisme, t'as fait le CFJ à Paris.
Oui, et j'ai fait une école de journalisme à Bruxelles et après, j'ai terminé à Paris. Okay. Puis après, j'ai été, je vais pas dire que c'était une connasse, mais c'était une connasse. J'ai été assistante de la Red Chef de l'officiel de la mode. Et après, j'ai travaillé pour Vanity Fair, Glamour, et maintenant je suis à Combini, je m'occupe de la mode là-bas. Donc ma vie est remplie et mon fils est à 300 km, donc il me manque un peu, mais je suis bien entourée, donc je suis contente.
Mais oui, on est trop contente d'être avec toi aussi, puisque cette phrase, je fais la mode à Combini, moi je la trouve superbe en elle-même. Donc on est ravis que tu sois avec nous, et donc maintenant voilà, le trio est réuni.
Wouhou !
Et nous serons tous et toutes les trois au micro pour tous les prochains épisodes, sauf événements exceptionnels où on doit se remplacer les unes les autres. On pense aussi à tous nos camarades qui sont en train de battre le pavé, puisque lorsqu'on enregistre le podcast le mardi, en ce 6 juin, c'est le dernier jour de mobilisation contre la réforme des retraites. On vous embrasse fort et on espère que vous avez de superbes pancartes. Le thème du jour, alors de quoi allons-nous parler pour ce jour de fête? Eh bien, c'est un podcast dans lequel on parle beaucoup de célébrités. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux invisibles derrière le succès d'une célébrité, les fans. Quel rapport entretiennent-ils? Est-ce qu'un amour unilatéral finit toujours en drame? Je n'ai pas la réponse, on l'aura tous et toutes ensemble dans le sujet de la semaine. Mais on commence tout de suite avec les losers et les winneuses de la semaine. Win ou lose, oui. Telle est la question.
Quel loser?
C'est ma nouvelle.
Elle, je l'aime trop. Icône.
Le gagnant ou le perdant de la semaine?
Roulement de tambour. Et voilà, comme chaque début d'épisode, on va parler un peu de l'actu chaude qu'on a envie de déballer. Et on commence pour ça par donner des couronnes de win ou de lose à des gens qui ont marqué l'actualité de la semaine dernière. Et on commence avec toi, Audrey.
Ouais, moi je vais vraiment pas donner une couronne pour le coup.
D'accord, oui. Une couronne d'épines seulement si elle fait mal.
Ouais, alors. Vraiment. Des ronces. D'abord, je vais faire un trigger warning transphobie puisque je vais parler de la vague de harcèlement et de commentaires transphobes à l'encontre du premier homme trans enceint qui a fait la couverture de Glamour. Donc on aurait pu s'en réjouir. Il y a des gens d'ailleurs qui s'en sont réjouis, puisque à peine deux semaines avant de donner naissance à sa fille Nova, Logan Brown, qui est un Britannique qui est en couple avec Bailey Mills, une drag queen britannique aussi non-binaire, il a récemment fait la une du numéro de juin du magazine Glamour. Ouais, exactement. Et le titre, c'était Trans, Pregnant and Proud, donc trans, enceint et fier. Et donc c'est le premier homme trans enceint à figurer sur une couverture de magazine ever, quoi.
C'est incroyable. Donc, très belle photo.
Incroyable. Il a posé le corps recouvert d'un maquillage qui donnait un peu l'illusion d'un costume trois pièces, tu sais, un peu body painting, là.
C'est du body painting.
Au début, j'avais pas vu, je croyais que c'était vraiment un costume. Et voilà, donc la couverture, elle coïncide avec le mois des fiertés, donc le mois de juin, dans le cadre d'un numéro qui parle un petit peu des thèmes autour de l'homoparentalité et de la transparentalité. Donc, il y a le magazine 20 minutes qui rapporte que ce blogueur, voilà, il faisait face à beaucoup de difficultés, notamment durant sa grossesse et aussi pendant son accouchement mimé. Il disait « Personne ne m'a demandé si ça allait. Personne ne s'est demandé ce que ça fait d'être un homme trans enceint. Les personnes qui sont enceintes de manière générale, c'est vraiment, vraiment difficile. Ajouter à ça le fait d'être trans, certaines sages-femmes le comprennent, d'autres non. Et il ajoute, une formation devrait être obligatoire parce que nous existons et que des personnes trans vont à l'hôpital. Donc j'imagine même pas ce qu'il a pu traverser, parce qu'il y a déjà des récits pour les personnes enceintes de manière générale. Donc
ouais, c'est clair.
À ça, ça ajoute la transphobie.
Par contre, du coup, maintenant, toi, ça s'est bien passé de ton côté, il n'y a pas eu de
Non, parce qu'en fait, mes sages-femmes étaient hyper aware du fait que les femmes noires sont déjà très, très, très mal prises en charge.
Ouais.
Et en fait, que ce soit nos douleurs, que ce soit le problème qu'on peut avoir, qui sont des plus gros risques quand on est femme noire, comme la préclampsie. En fait, moi, j'ai eu des risques de préclampsie. En fait, c'est quand ton placenta devient toxique et pour toi et pour le bébé.
Okay.
Donc, en fait, il faut sortir le bébé. Ma sœur, elle a eu ça. Mais ça touche encore plus les femmes noires que les femmes des autres ethnies, si on peut dire.
Okay.
Et souvent, les gens ne sont même pas au courant. Donc, parfois, tu as des fortes fièvres, des maux de tête, tout ça, et personne ne va aller voir là. Ouais, donc, quand quelqu'un est déjà un peu conscientisé sur ces trucs-là, ils vont se dire, c'est une femme noire, on va prendre attention, tout ça. Donc, parfois, ça amène au drame. Par exemple, il y a Serena Williams qui souffrait de ça. Elle a dit à son médecin.
Oui, je me souviens.
Ouais, et on l'a pris un peu de haut, elle a failli mourir.
C'est le fameux syndrome méditerranéen.
Ouais.
Genre,
ouais,
on minimise ta douleur.
Ouais.
En fait.
D'ailleurs, une copine à moi qui est, je vais dire, je m'en fiche, qui est péricultrice, je pense, à Clermont-Bicêtre, quand ils parlent aux urgences, aux médecins, ils demandent l'ethnie de la femme. Si elle est, si elle est maghrébine, ils vont dire, ah ouais, c'est une femme qui crie un peu pour rien.
Elle exagère.
Ouais, elle exagère. Si c'est une femme noire, ils vont dire, ça va, eux, ils supportent bien la douleur. Et je lui dis, mais c'est hyper choquant que tu nous dises ça, en fait. Parce que nous, on sait, on le vit, mais que
on
vous...
On te croit pas, quoi.
Et elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, franchement, au début, je pensais que c'était du racisme, mais on est tellement habitués à voir des femmes maghrébines qui se plaignent pour rien du tout, qu'au final, on dit que c'est vrai et qu'elles exagèrent. Elle dit, oui, mais c'est un préjugé qui peut amener la mort d'une femme qui, elle, a vraiment mal, en fait. Et donc, j'imagine même pas ce qu'il a dû vivre, en fait.
Ouais, j'imagine pas non plus. Et du coup, depuis mars, il partageait ses expériences, justement, en tant qu'homme trans enceint sur les réseaux sociaux. Il parlait un petit peu de sa vie quotidienne, de tout ce qu'il traversait. Et effectivement, il a dû faire face non seulement à la transphobie dans le domaine médical, mais aussi en ligne, puisqu'il recevait pas mal de messages violents et haineux, comme par exemple, les hommes ne peuvent pas être enceints, enfin, des insultes.
Des négations, quand même.
Ouais, voilà. Puis les réponses à la une de Glamour dérogent pas non plus à la règle, puisqu'il y a aussi eu pas mal de commentaires transphobes sous chaque poste, en mode c'est quoi cette ignominie. Enfin, je vous passe les commentaires, c'est vraiment ignoble. Et donc, pour rappel, la transphobie n'est pas une opinion, c'est un délit. Et ça renforce la banalisation des violences, ça donne de l'eau au moulin de toutes les attaques politiques anti-trans, toutes les lois anti-trans qui sont en ce moment en train de pulluler. Et en plus, il n'y a pas eu de réaction du magazine Glamour à l'heure actuelle. Donc, moi, je me pose la question, c'est bien d'encourager de telles représentations, mais après, derrière, qui est-ce qui protège justement les personnes qui sont mises en avant, quoi?
Non, vraie question, je suis d'accord.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on juge différents qui ne vont plus dans les médias justement parce que, en fait, le suivi n'est pas là, en fait.
C'est ça.
On les prend parce qu'on sait que ça va peut-être buzzer ou marcher, mais après c'est elles qui vivent le cyberharcèlement. Ah,
oui, c'est quoi le truc sur M6, X-Factor ou
Incroyable Talent? La France, c'est un Incroyable Talent, c'est ça?
Bah, ma pote Tani, qui est humoriste noire et lesbienne, elle avait été contactée. Et en plus, c'était il y a 2 ans, donc ça aurait pu faire un bond dans sa carrière. Et elle a refusé pour ça.
Mais oui,
elle avait dit, genre, là, je sais qu'ils sont plein de bonne volonté, mais après,
t'es trop vulnérable.
Et elle avait posé des questions, genre, qu'est-ce que vous faites pour modérer les commentaires? Il n'y avait pas de protocole déjà fait.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on te met en lumière parce que c'est à la mode en ce moment, puis après, tu te débrouilles. Quoi. Voilà. Bon, peut-être que Koumbis, tu veux nous parler de quelque chose un peu plus positif?
Oui, moi, c'est un peu plus positif. Ma winneuse de la semaine, c'est Blue Ivy Carter. Si ce nom ne vous dit rien, c'est un peu grave, mais pas trop. Blue Ivy est la première fille de Beyoncé et de Jay-Z. Et à 11 ans, son CV est beaucoup plus rempli que le nôtre.
Ah oui.
Déjà, rien qu'en laissant de côté son pédigré hors du commun, je vous rappelle que c'est la deuxième plus jeune lauréate de toute l'histoire des Grammy Awards. À 9 ans, elle a gagné le prix de la meilleure vidéo pour Brown Skin Girl avec sa maman. Rien que ça, déjà, c'est
Elle
n'avait
pas réalisé la vidéo, juste elle était
non,
dedans.
Non, mais en fait, elle était dedans. Elle était aussi productrice, en fait.
Non.
Ouais, en fait, ils sont très intelligents. C'est ce qui fait aussi DJ Khaled. En fait, il met son fils comme producteur, qui est le fils qui ne sait pas parler ni écrire, comme producteur de ses albums. Donc, du coup, il est crédité.
Okay.
Du coup, ça lui donne de la thune, ça lui donne, c'est vraiment une dinguerie.
C'est
en fait,
incroyable,
c'est,
ah,
c'est smart.
Ouais, c'est vraiment smart.
La fille du motif, je sais pas si tu vois sur TikTok, elle a sorti une chanson qui s'appelle Caramello.
Non, je vois le motif, mais je vois pas la vidéo.
Bah bref, je me demande si c'est pas le même bail, du coup il a pas fait chanter sa fille pour...
Mais en tout cas, c'est vrai, parce que ça leur donne de l'argent, en fait. Et donc, du coup, ça remplit ton CV alors que t'as rien fait. Si, elle a quand même dansé, donc voilà. Et donc, du coup, cet été, elle suit sa maman sur sa tournée déjà iconique, Renaissance World Tour, t'as été voir ?
Non, j'ai pas payé autant pour aller la voir.
C'est vrai, c'est toi qui
allais. Moi, j'ai été, j'ai payé pas cher, c'est 80 euros, mais j'étais franchement presque derrière la scène, en fait. Je la voyais en parallèle. Genre, la voyais, on restait un papier craft. Donc, franchement, elle pouvait faire ça, elle était minuscule en fait. Je me suis dit, j'ai pas mes lunettes, j'aurais rien vu en fait. J'aurais pu aller faire ça dans un bar, ça aurait été la même chose. Oui. Mais l'ambiance était là, mais je regrette d'avoir payé parce que j'aurais pu voir ça sur internet.
Ouais, bah, moment, t'as fait partie de la folie, je pense que c'est tellement d'anthologie, tu pourras dire j'y étais.
Mais ouais, mais franchement, elle a vraiment une prestance, et elle chante bien, elle est belle, et moi je pense que franchement, les gens qui la critiquent n'ont pas d'argument parce qu'elle est vraiment parfaite, à mes yeux en tout cas. Ouais. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Mais si, on est évidemment d'accord, puis bienvenue dans ce podcast, on est d'accord avec toi.
Donc voilà. Et pour vous dire du coup que Blue Ivy est sur la tournée et elle aurait pu rester à l'intérieur manger des pop-corn, mais pas du tout. Elle danse sur la tournée. Quand sa maman chante la chanson My Power, elle dit la phrase « c'est ma lignée ». Donc la Blue Ivy sort et commence à faire sa chorégraphie du tonnerre. Elle est habillée en rouge, en petite combi comme dans Casa de Papel. Et du coup, moi j'étais scotchée, mais sur internet, bien sûr, les gens ont toujours quelque chose à dire. C'est des Kamel Wally du net qui savent danser, qui savent twerker, qui savent briquer. Et là, tout le monde a commencé à dire « ah non, mais elle n'est pas assez fluide, là, son mouvement, il n'est pas assez charismatique, pourquoi elle est là ?» Et donc, du coup, ça m'a énervée parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis qu'elle est née, c'est une enfant, déjà, elle a 11 ans. Déjà, va danser,
elle a 11 ans.
Elle a 11 ans. Elle danse devant 80 000 personnes, déjà, soit fière d'elle et content pour elle. Mais ce que m'énerve, c'est que depuis qu'elle est née, on la critique, en fait. Quand elle est née, on l'a trouvée un peu trop marquée, on trouvait que son nez était trop gros, on trouvait qu'elle n'était pas assez jolie par rapport aux filles de Kim Kardashian. Je ne sais pas si tu te souviens de tout ça, on trouvait que ses cheveux étaient trop crépus. Et j'ai envie de dire que déjà à 11 ans, parce qu'en fait on aime bien les enfants métis ou noirs quand ils ont des traits fins. Parce que même moi, quand on dit que mon fils est très clair, je ne sais pas si je dois le prendre bien parce que lui il est clair, mais en soi, ça change quoi. Elle dit oui, on dit ouais, il a une belle couleur de peau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était plus foncé, vous ne l'aurez pas dit, ça met un peu mal à l'aise en fait. Et même quand on me demande souvent pourquoi mon fils est aussi clair, je veux dire, mais c'est un métis en fait. Et on a toutes les shades du monde en fait. Je ne vais pas expliquer que son père est polonais, on s'en fiche parce qu'il est juste là, il est là en fait. Pour sortir de ça, ça m'a un peu énervée parce que je me dis que Blue Ivy a 11 ans, mais elle a sûrement accès à Internet et elle voit tout ce qu'on dit sur elle en fait. Oui, donc j'aimerais bien que les gens comprennent, que les gens qu'on critiques ont accès à Internet et qui lisent les messages. Et que je pense pas qu'on aimerait que critiquer vos enfants de 11 ans. Donc, je pense qu'il y a un décalage et quand les gens sont connus, on se dit que c'est pas important, on peut les critiquer, on peut les rabaisser, on peut leur faire ci, mais non, peut-être qu'elle, chez elle, elle pleure le soir parce qu'on la critique en fait. Donc moi, je suis très fière de Blue Ivy, je voulais l'envoyer tout mon amour, même si elle est très riche, elle n'a pas besoin de moi. Voilà, c'est un petit point que je voulais dire. Pour moi, c'est ma winneuse et j'ai hâte de la voir dans le reste de la tournée parce que là, on voit déjà qu'elle s'est hyper fort améliorée et qu'elle devait être stressée et que c'est dur de même revenir les pas quand on était petit. Moi, quand j'allais à la kermesse de l'école, déjà, deux pas comme ça, j'arrivais pas à les faire.
C'est ça, à 11 ans. Le spectacle à Noël devant les parents.
Mais c'était horrible. À 11 ans, devant 80 000 personnes, évidemment, moi j'aurais bégayé.
Mais bien sûr que oui. En plus, ça fait des petits cœurs et tout. Je sais pas, genre, ça m'a trop énervée, mais je suis contente pour elle. Et donc, c'est ma winneuse. Et toi, Mao, est-ce que t'as un winner ou une loseuse?
Non, malheureusement, j'ai un loser. Okay. Un homme encore. Je sais, le choc toujours est immense. Je vais parler de Nouvelle École, qui est une télé-réalité qui est signée Netflix et qui reprend un concept américain. Et l'idée, c'est on va chercher la pépite de l'année. Partout, de Paris à Marseille, en passant par
Bruxelles.
Par Bruxelles, bébé, évidemment. D'où vient Shai, c'est ça, ce qui est originaire de Bruxelles.
Shai, Damso, Hamza, Stromae, il y en a trop, quoi.
J'avoue, trop de talent, vous êtes un peu populaire de talent. Ouais. C'est pareil en humour, vous avez grave des humoristes BG. Ouais. Anyway, en passant aussi par les Antilles, on pense à Meryl, qui est peut-être pas Meryl. Notre fantasme avec Audrey.
Elle est vraiment sexy.
Elle est très, très, très sexy. J'ai eu plusieurs critiques à émettre. Alors, il y a eu plusieurs scandales. Il y avait notamment une jeune rappeuse qui s'appelle Naira, qui passe l'audition, qui éteint les deux mecs qui sont en compétition contre elle, Niska. Il décide de pas la prendre. Il prend un gars random qui s'appelle Bayas. Donc, ça, c'était le premier sum. Après, il y a eu genre un moment iconique. Là, j'ai pas de critique à faire avec Crystal, avec Cri. Donc, il y a une rappeuse belge. En gros, Shai, le mec de Shai, serait l'ex de Crystal.
Selon la rumeur.
C'est-à-dire que ma source, c'est rien.
C'est Internet.
Mais voilà, mais on vous le dit. Donc, c'est pour ça que quand Crystal fait son freestyle et qu'elle dit tu ramasses mes miettes, bah elle s'adresse à Shai, et c'est pour ça que Shai fait grave la tête. Moment d'anthologie de télé. Ensuite, il y a l'élimination de Warrend. C'est un jeune rappeur toulousain qui joue sur une bipolarité artistique entre deux personnalités, une sorte de schizophrénie, qui est éliminée alors que c'est un peu le mec qu'on voulait tous voir shine. Et en plus, SCH a proposé qu'on le repêche. Et de nouveau, Niska a dit non.
Ouais.
Vous voyez pourquoi je ne veux pas retenir le nom de cette personne. Bon, voilà. Et ensuite, pour arriver au gagnant, il y a un gagnant qui s'appelle Youth Boy, qu'on a tous découvert lors de la diffusion de la finale le 31 mai. Et en fait, la veille, la production a appris, donc pas la veille du tournage, mais la veille de la diffusion, qu'une jeune femme avait porté plainte contre lui pour viol en août 2022, pour plusieurs viols entre fin 2020 et le printemps 2021. Ça a été révélé par deux magazines, Période et Mademoiselle. Et ce qui est très étonnant, c'est un déjà genre soutien et on te croit à la victime. Deuxième chose, c'est que sous les posts, les réactions, c'est « Bah merci pour le spoil, je sais qui a gagné maintenant. » Et non, genre « Désolé pour le viol. » Youth Boy, c'est un artiste qui a une personnalité très atypique et que j'aimais bien et j'étais contente de voir quelqu'un gagner comme ça. Et je suis triste et déçue de voir quelque chose que l'on sait toujours, mais qu'on est toujours déçu de voir être confirmé, c'est que les violeurs sont partout et que c'est 80% des gens autour de toi. Tes potes, cet inconnu dans le métro, ton collègue, ton cousin, cette nouvelle star de télécrochet, voilà. Et
on sent la déception dans ta voix.
Je suis aussi très triste en fait. En fait, je suis triste de voir que c'est un... ça devient un marronnier de journalisme.
Ouais.
Et genre, c'est un sujet classique, on est au 20e épisode et j'ai fait combien de sujets sur des meufs qui portent plainte pour viol ?
Et encore, ouais, on les a pas tous fait, quoi.
Et on les a pas tous fait, c'est ça aussi qui m'attriste beaucoup, c'est que du coup, je suis en mode, bon, bah voilà. Il a réagi par son avocate, puis lui-même par un tweet, il se dit, je sais, surprise, innocent. Voilà, fin des losers.
Le sujet de la semaine.
On va parler de quoi cette semaine ?
Vous avez des idées ?
Ultra cringe.
On peut dire que c'est vraiment nul ou pas ?
Elle a osé.
Cette semaine, dans les mains dans la pop, on va parler célébrité, ou plutôt ce qu'il y a à côté de la célébrité, ceux qui la regardent et qui lui permettent d'émerger, les fans, les fanbase, les charmés, ceux qui se déplacent en concert, ceux qui t'attendent parfois devant ton hôtel, ceux qui commentent un cœur. Il y a différentes façons d'exprimer son amour à quelqu'un qui nous inspire et on avait envie de parler de ça, parce que parfois ça devient toxique, parfois ça peut devenir grave, jusqu'aux faits divers, parfois jusqu'au meurtre de la personne à laquelle on voue un culte. On se demandait comment se former les fanbases. Audrey va d'abord revenir dessus sur quels sont les facteurs psychologiques qui expliquent la formation comme ça d'un groupe pour porter quelqu'un d'autre.
Exactement. Moi, j'ai pas de fans, mais je suis retombée...
Si, nous, t'inquiète.
C'était juste pour que vous le disiez. Je suis retombée, en fait, sur des photos récemment de mon ancienne chambre de pré-ado. Mm-hmm. Et vraiment, les murs étaient recouverts de posters, j'ai un peu honte de le dire, de Priscilla et, et des Sœurs Olsen. Les Sœurs Olsen. Tu te souviens de sa série, là ?
Ah mais oui, mais danse, j'étais
danse, non, t'inquiète pas.
Ah, j'aimais trop.
On va savoir pourquoi. En tout cas, c'était pas très très hétéro, je pense, comme obsession.
Ah, j'avoue, c'est drôle.
Et je me suis demandé du coup pourquoi en fait, quel facteur psychologique derrière le fait de vouer justement un culte, comme tu disais, à vraiment de parfaits inconnus. Je sais pas si toi, Koumbis, t'étais fan de quelqu'un quand t'étais plus ado.
J'étais fan de Michelle Pfeiffer.
Je vois ap qui c'est.
Moi non plus.
Mais si, celle qui joue Elvira dans Scarface, elle joue aussi dans le truc.
Bien, continue de la regarder.
C'est
mais
hyper
genre,
niche.
No way. Mais tu vois pas, c'est celui qui fait le majordome dans l'épisode 2 de la série.
Michelle Pfeiffer, elle joue aussi elle joue aussi la prof qui va dans un lycée.
C'est vraiment ça. C'est littéralement ça, c'était même pas une blague en fait. C'est ça, elle sur la craie, tu sais, en arrière-plan.
Mais c'est Michelle Pfeiffer, la montre hyper
bon,
sexy.
Bon, tu nous n'es d'aucune utilité sur ce sujet.
Mais j'aimais aussi. C'est tout en fait, Michelle Pfeiffer.
Non, il y avait quand même.
Et Lucy Liu.
Ok, là je l'ai.
Ok, d'accord.
Voilà, c'était mes deux. Voilà.
Elle joue dans
Charlie's Angel.
Ouais, okay. Et dans les Tarantino en 3 tomes. Non, c'est pas
Kill Bill, exactement.
Ok, voilà. D'accord. Ouais. Et toi, Mao ?
Moi, j'étais fan de toutes les filles.
Ouais, bah ouais.
Je les trouvais belles et minces et stylées. Je voulais être comme elles. Et moi, j'ai eu des obsessions sur quelques garçons. Mais j'y reviendrai après parce que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de pas devenir fan. C'est
ça
une décision de ma vie. En fait, je n'ai jamais été fan de gens. Pas une phase Tokyo Hotel, pas une phase.
Mais
alors. Phase Adèle Haenel, depuis quand même maintenant 5 ans. Donc peut-être que je me rattrape.
Ah, d'accord. Tu nous en parleras tout à l'heure. En tout cas, du coup, je me suis grave intéressée à ce que ça disait psychologiquement en fait de nous d'être fans comme ça de gens et j'ai trouvé plusieurs réponses. Il y en a pas mal. Alors il y a déjà le fait que ça donne une forme d'identification et d'appartenance en fait, ce qu'on appelle les fandoms ou les fanbases. Donc en fait c'est la sous-culture liée à l'ensemble des fans.
Tu es partie d'une communauté.
Voilà, une communauté solo. Ça procure un sentiment en fait d'identité, d'appartenance. On fait partie d'une communauté de fans. Les gens trouvent des personnes avec qui partager les mêmes idées, les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes passions. Et en
fait, ça favorise un sentiment de connexion, d'acceptation, de validation. Et en vrai, ça fait du bien, ça contribue à une image positive de soi-même. Et il y a même au sein de ces communautés des normes, des valeurs, même des rituels au final.
Oui.
Et toutes ces dynamiques-là, ben, ça renforce un sentiment de cohésion, de groupe et un sentiment d'identité collective. Donc c'est plutôt positif. Et les fans, comme je disais, adoptent des comportements. Il y a tout un langage en fait autour de la célébrité ou en tout cas de l'objet culturel qu'on adore. Il y a des symboles.
Les Belly Birds, genre, elles ont
exactement.
Des noms. Les monsters, voilà, exactement. Pour Lady Gaga.
Ouais. Il y a des symboles.
Il y a aussi pour Rihanna, c'est de Navy.
Oui.
Ah bon, Navy.
Navy, ouais.
Je sais pas.
Les Swifties pour Taylor Swift, ouais. Etc. C'est limite un peu sectaire. Ouais. Et voilà, donc les gens peuvent devenir fans aussi pour se sentir justement connectés donc à la communauté, mais aussi connectés aux tendances. Ça permet d'avoir un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que soi, un objet culturel,
oui,
plus grand
comprends.
Que soi, tu vois.
Comme
plus large.
Non, rien. Non, je me disais qu'il y avait la même mécanique sociale qu'on peut avoir, par exemple, quand on s'engage aussi dans les milieux queer et d'un coup, tu as l'impression de faire partie d'une communauté. Ça peut même, je trouve, parfois aller maladivement, ça devient tout ton toi,
identité, ouais, j'en parlais
ou
tout à l'heure.
Ou en politique aussi, enfin, ouais.
Grave. Et voilà, donc les fans s'identifient à l'histoire aussi, aux valeurs et au parcours, par exemple, de la personnalité de laquelle ils sont fans. Et ça peut être une source d'inspiration, de motivation. Il y a ça, et il y a aussi le fait que ça favorise les relations parasociales. Alors, les relations parasociales, c'est en gros quand, par exemple, tu développes des relations où tu ressens un lien émotionnel qui est souvent à sens unique, avec une célébrité ou un personnage fictionnel. Et en fait, les fans peuvent projeter leurs propres besoins, leurs désirs, leurs fantasmes sur ces personnes, ce qui peut conduire à un sentiment... En fait, t'as l'impression d'être intime et d'être attaché à cette personne, alors même que cette personne ne te connaît pas et que tu la connais pas vraiment au final.
Mmh.
Et donc, c'est comme une vraie relation, sauf que t'es des milliers de personnes à avoir cette même relation avec cette personne et cette personne ne te connaît ni d'elle ni d'Adam.
Oui, elle est unilatérale, elle ne sait pas que t'existes.
Mais est-ce que du coup, c'est malsain, selon toi ou...
Pas forcément. Okay. Je pense que du coup, c'est juste le truc qui est au cœur de...
Ça peut te sauver parfois, quand je pense
fans,
à,
ouais.
à des potes. Genre, j'ai un pote qui s'appelle Lola Wesh, qui est drag queen, et ouais. il a l'impression que sa mère supérieure, c'est Mylène Farmer. Okay. C'est un truc qui l'a aidé, qui a été pour lui une motivation de dingue.
Exactement. Bah justement, ça peut aussi être un moyen de s'évader, d'échapper au stress, d'échapper à sa vie, en vrai.
Oui.
et de s'immerger dans un monde fictif, d'avoir voilà, ce modèle ou cette figure qu'on regarde comme ça. Et en plus de ça, ça nous permet aussi d'avoir un intérêt hyper spécifique. C'est une forme de divertissement, de diversion. Il y a des fans qui peuvent, comme tu le disais, trouver du réconfort, de l'excitation, de l'inspiration dans cette célébrité ou même dans des réalités un peu alternatives. Ça me fait penser aussi au fait que ça donne aussi un sens d'expertise. Genre, par exemple, les fans développent.
T'es expert en un truc.
Voilà, les fans développent vraiment une connaissance approfondie à propos de la série ou de la célébrité, de la chanteuse ou du chanteur
préféré. Ça peut faire grandir ton estime de toi-même, peut-être.
Exactement.
D'avoir de nouvelles connaissances.
C'est par exemple comme ce que j'ai eu avec Priscilla qui adorait les dauphins et du coup, j'ai développé une expertise sur les dauphins à bosse.
Ah mais ça me vient de truc. On a fait un reportage sur Combini, ils sont vraiment des très
c'est
bizarres.
Des violeurs,
c'est des violeurs
ouais.
et
ouais,
déjà, les meufs, elles se masturbent avec la.
De leur enfant, c'est trop bizarre.
I know, mais
ils ont pas les mêmes lois que nous.
Ça m'a permis de développer une expertise et en vrai, toutes ces connaissances hyper niches, ça donne aux fans un sentiment de maîtrise. Ça les fait se sentir effectivement, comme tu le disais, plus compétents, plus compétentes, informés sur quelque chose qui les passionne. Et donc, ça, c'est une forme d'épanouissement émotionnel et personnel. Être fan de quelqu'un, ça peut aussi provoquer des émotions hyper fortes, de la joie, de l'excitation,
quand il réussit,
de la colère, de la frustration. Et du coup, c'est quelque chose qui donne du sens, qui donne un but. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a derrière le fait d'être fan, toute la psychologie derrière le fait d'être fan. Mmh. Voilà.
C'est aussi valable du coup pour les fans de foot du coup.
Ah oui, pour tout. Pour,
ah mais les fans de foot, t'as vu les tarés, évidemment.
C'est ça, carrément.
Parce que moi, désolé, j'ai dit à mon beau-frère, souvent vous vous moquez des fans, par exemple, de Taylor Swift, mais eux, parfois, ils se réveillent le matin pour aller devant leur club et parler du club alors qu'ils sont pas payés par le club en fait. Ils disent oui, on a mal joué, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais tu n'es pas payé par le club en fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, mes frères? Tu te réveilles le matin pour aller au Bourget pour parler entre inconnus. Mais c'est dinguerie quand même. Donc voilà.
Ouais. Moi, c'est le fait de trop s'investir, justement, qui me faisait peur. En fait, j'aurais pu vous le dire tout à l'heure, je sais pas pourquoi j'étais en mode genre, je vous en parle tout à l'heure. La raison pour laquelle je voulais pas être fan, c'est qu'en fait, ça me faisait peur quand je voyais mes copains ou mes copines fans de quelqu'un. Et moi, je me rendais quand même déjà compte, j'avais la rationalité petite de savoir que jamais cette personne nous rencontrerait.
Ouais.
Et que du coup, c'était un amour voué à mourir. Et ça, je l'ai compris parce que quand j'avais genre 5 ans, j'étais allée voir Harry Potter. Mmh. Je découvre Daniel Radcliffe, qui je pense a le même âge que moi ou 2 ans de plus. Et je me rappelle que je rentre chez moi et j'étais genre, hyper drama, assise sur mon lit. Et ma sœur était venue, elle était en mode ça va, j'étais en mode genre non. Je suis amoureuse de quelqu'un qui me connaîtra jamais. Oh. Et vraiment, et je me rappelle de la douleur dans mon âme, dans mon cœur. Oh. J'étais amoureuse et je savais qu'on se rencontrait pas. Et je pleurais et tout. J'avais grave fait tout le chemin. Et après, du coup, je suis en mode, bah, je peux pas être fan. Faut que je m'interdise d'aller là-dedans parce que je vais trop en souffrir. Et après, il y a les choristes qui sont sortis.
Il y a quoi,
amoureuse
les
de choristes.
Morange. Ah, les choristes.
Les choristes.
C'est Maxime, celui-là?
Jean-Baptiste Monnier.
Voilà.
Jean-Baptiste Monnier, voilà. Qui, tu vois pas, c'est des mecs qui font une chorale dans une maison.
Il était très beau. Il était très beau, très mignon. Il était mineur, donc il était très.
Mais j'étais
mignon.
Moi aussi mineur, j'avais 10 ans à l'époque, je veux juste te rassurer.
Non, il était très mignon.
Disclaimer. Ouais. Disclaimer, j'avais moi-même 10 ans. Et d'ailleurs, l'histoire, c'est que je suis allée dans une lubie telle qu'en gros, on m'avait offert l'album, et tu sais, il y a un petit flyer avec les paroles, donc j'avais tout appris par cœur, puis j'avais mis ses photos. Et après, je suis rentrée, j'étais dans un collège pas mixte tenu par des bonnes sœurs, et je suis rentrée dans la chorale de là-bas, parce que je savais que parfois, il y avait un concert en lien avec leur chorale, dans laquelle il était encore après son truc d'acteur.
Ah, donc il était vraiment dans une chorale?
Ils étaient partis d'une chorale, les petits chanteurs à la croix de bois. Tous les acteurs que tu vois, en fait, c'est des. C'est des choralistes à la base.
Est-ce que tu veux qu'on l'invite ici pour tu le rencontres?
Attends la suite. J'étais prise dans la chorale. Non. Attends,
tu as été prise dans la chorale.
J'étais prise dans la chorale. Wow. Alors qu'on m'avait dit que j'étais ni baryton ni soprano, que j'étais à ma place. Et en fait, trop, bah, ils étaient devenus trop connus. Du coup, on nous a mis avec une autre chorale. On a fait un spectacle qui s'appelait Peter Pan. Mais j'ai développé une fascination pour un autre mec où après j'allais voir son Skyblog et tout. Mmh. Et puis après, je me suis arrêtée. Je sais pas.
Moi, jamais de crush. Quand on en parle, jamais de crush.
Tu veux dire crush même pas sur ton mec ou sur ton enfant?
Non, si. Ton enfant. En fait, non, jamais genre non, en mode crush des crushs secrets. Genre, moi, la mienne, les gens qui m'aiment. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai pas le temps de m'aimer.
Très sympa, en fait.
Bravo. Ouais, par contre, je me dis, toi,
mais après cette histoire-là, j'étais pas amoureuse. Tu sais, en plus, moi, comme j'étais en collège pas mixte, genre, les filles de mon collège, c'était horrible. Elles avaient un rapport aux garçons qui était très différent. Il y avait les lycéens et il y avait des meufs qui suivaient les lycéens, qui avaient des blogs et tout sur les mecs qui avaient 2 ans de plus que nous et tout. Ouais. Et tu vois, là, par exemple, je suis jamais allée vers là. Ouais. Parce que je savais que ça allait être dangereux et que ça allait flinguer.
Vous êtes si saine. Ouais. En tout cas, moi, j'enchaîne du coup sur la santé mentale.
C'est l'occasion parfaite.
T'avais des blogs sur des mecs, des femmes au lycée. Non, quand même pas, mais je parle des gens qui peuvent vraiment déraper. Mais du coup, je voulais parler un peu du lien entre la santé mentale et le fait d'être fan. Et il y a des personnes, en fait, qui ont déjà des petits soucis de santé mentale sous-jacents et qui peuvent, comme on le disait tout à l'heure...
Je me sens pas visée.
Non, mais qui peuvent justement trouver du réconfort ou trouver un échappatoire dans le fait d'être fan de quelqu'un ou d'une série. Voilà, et c'est un espèce de répit temporaire, en fait, une distraction à leurs problèmes de santé mentale. Et en vrai, je comprends. Il y a même des fans qui disent « Oui, le fait d'être fan de telle personne, ouais, ça m'a sauvé. »
Même la musique, même parfois les paroles. Hein. Parfois, j'écoute des paroles et je me dis oh, « Il a raison !» Ouais, levenons et devenons riches, tu vois. Ouais.
Développement personnel.
Elle a raison. Bitch better have my money.
Mais oui, attends, on est où là?
Mais voilà. Du coup, il y a des dérives. Il y a un aspect négatif à tout ça. Il peut y avoir des comportements toxiques. Peut-être Mao t'en parlera tout à l'heure. Il y a des conflits. Il y a des focus aussi sur les personnalités qui peuvent être vraiment excessifs au détriment. Par exemple, ça peut devenir toute ta vie et vraiment, au détriment de ta propre vie, tu vas être vraiment fan à tout prix de quelqu'un.
À ta thune.
Et sans parler d'érotomanie, qui est vraiment un trouble psychiatrique rare, donc pour info, c'est la croyance délirante qu'une autre personne, généralement quelqu'un qui est connu, est amoureuse de toi, qui a une relation vraiment réelle entre toi et cette célébrité, malgré justement l'absence de toute relation amoureuse réelle. Et au-delà de ça, il y a quand même certains et certaines fans qui deviennent complètement obsédés et qui ont l'illusion aussi d'un lien spécial. Par exemple, qui vont envoyer des lettres, des messages, des DM de manière excessive à des célébrités, qui vont tenter d'établir un contact ou qui vont même suivre ou surveiller leur cible au final. Je sais pas si tu veux un peu en parler,
si.
Mao.
Quand Audrey a proposé de développer cet angle, on est allé regarder et oui, il y a eu des cas d'érotomanie pathologique allant parfois jusqu'à la mort. Koumbis, voilà,
c'est vrai.
Ouais, je te le dis, cache pistache nature peinture.
Mais est-ce que c'est le cas par exemple de la chanteuse, je pense que c'était mexicaine, Selena? Qui a été tuée par un fan.
Oui, j'ai vu, ouais. Okay. Exactement, il y a Selena.
Ah bon, mais ça c'était pas un féminicide genre d'un ex à elle, non?
Non, je pense que c'était sa nounou qui était fan d'elle en cachette et qui l'a tuée parce que...
Bon bah voilà,
ouais,
exactement.
Putain. Alors là, avant d'en arriver jusqu'au truc ultime, non, on avait repéré un fait d'érotomanie qui s'est passé en 2011 envers la chanteuse et actrice Selena Gomez.
Une autre Selena.
Elle avait été traquée par un fan de 46 ans qui était persuadé qu'elle était son âme sœur. Mais en gros, l'érotomanie... D'ailleurs, moi, il y avait une fille qui était érotomane envers un garçon lycéen. Et je me rappelle qu'à un moment, il avait partagé une chanson. Elle, elle avait traduit les chansons et en français, ça racontait tes cheveux qui sont comme une toile d'araignée. Et elle, elle avait les cheveux bouclés. Elle m'avait dit, tu vois, Mao, comme il m'aime. Il le faisait par moi, il partage son blog un truc parce qu'il dit que mes cheveux sont comme une toile d'araignée. Bon,
elle,
mais là, c'est.
Elle va plus... bien maintenant, la
Je sais pas, je la connais pas, elle s'appelait Alice. Du coup, il a fait 5 allers-retours de Chicago à Los Angeles pour la rencontrer. Il s'était rendu sur son lieu de travail et de tournage et c'est là où le bas commence à blesser. Il avait confié à un psychiatre que Dieu lui avait demandé d'assassiner la jeune femme.
Okay.
Et du coup, terrorisée, la star a finalement obtenu une ordonnance restrictive pour interdire à l'harceleur de l'approcher pendant 3 ans. Bon, moi, c'est une punition qui reste abstraite tant qu'il n'est pas derrière les barreaux. Il devait être derrière les barreaux, mais comme il y a une surpopulation carcérale, il a été relâché.
Et même le nombre de gens qui viennent vers toi alors qu'ils ont une ordonnance restrictive, j'ai envie de dire.
Oui, c'est tellement abstrait comme ça. Mais oui. Que... Ça va pas empêcher les personnes.
Il va se dire, ah non, j'ai mon papier chez moi qui me dit que je ne peux pas venir. Non.
En plus, il y a le rapport avec les stars, il y a le rapport physique, puis il y a le rapport aussi, du coup, en ligne. T'es jamais solo, quoi.
Mais exactement, en fait, je pense que le fait que c'est l'engagement, en fait, de la plupart des fans, c'est, comme tu le dis, en ligne. Il y a l'anonymat, en fait, il y a le cyberharcèlement qui est possible, et puis t'as plein d'informations à portée de clic. T'es tout le temps exposé aux réseaux sociaux, et donc ça peut renforcer la toxicité, contribuer à des problèmes de santé mentale, anxiété, dépression, etc. Donc ouais, le fait que tout ça se passe en ligne, ça n'aide pas. Et c'est l'occasion d'ailleurs de vous encourager à aller regarder Swarm de Donald Glover, qui est une série diffusée sur Amazon Prime, dont j'ai parlé dans l'épisode 10 Des Mains dans la Pop, si vous voulez aller le réécouter. Et donc en gros, c'est une série qui parle justement de la fanbase. Et même si en fait la série ne parle pas explicitement, par exemple, des Swifties, comme on disait tout à l'heure, des fans de Taylor Swift ou des Beliebers, les fans de Justin Bieber, on comprend que en fait, le personnage principal est fan d'une artiste fictive qui s'appelle Naija. Et en fait, c'est un petit peu inspiré de Beyoncé et de toute sa communauté. Et en gros, ça parle vraiment de la toxicité justement de la fanbase. En fait, dans la série, on suit le personnage principal qui est vraiment une fan obsédée et qui finit par tuer justement des gens qui sont tous les détracteurs en fait, de la célébrité qu'elle adore. Et ça rappelle grave les violences qu'il peut y avoir dans les fanbases dans la vie réelle.
Absolument. Et donc, dans la vie réelle, là, je vais parler de 3 cas qui sont crève-cœur. Il y a le couturier Gianni Versace. Je sais pas si t'avais vu la série qui s'appelait Killing Versace, qui avait été diffusée sur Netflix.
Mais je connais son histoire, mais j'ai pas regardé.
Bah, en gros, voilà. Donc, il a été assassiné devant sa villa à Miami, à bout portant, en 1997, par un homme qui s'appelle Andrew Cunanan. Et il y avait rien d'autre qu'une fascination malsaine. Et peut-être une haine que quelqu'un réussisse quand toi t'y arrives pas. Peut-être que l'autre est le miroir de tes frustrations et que du coup, tu veux les reporter sur lui. Par exemple, c'est un peu le cas pour John Lennon, donc le membre des Beatles. Il a été assassiné à bout portant, pareil. Toujours le truc des lâches, en plus, à bout portant. Enfin, je dis pas que ce serait moins lâche de les tuer à la main, mais enfin, bref, je m'explique. Whatever. John Lennon, il a été assassiné en 1980 à New York par un mec qui s'appelait Chapman. Et en 2020, il est revenu sur ce meurtre et dit en fait la vérité. Bah, John Lennon, c'est un des hommes les plus célèbres sur Terre. Et moi, je voulais être célèbre. J'étais à la quête d'une gloire personnelle. Donc, c'était un acte égoïste, mais c'était pour ça. Pour que rien qu'en assassinant quelqu'un de connu, il y a un ruissellement de célébrité qui va venir jusqu'à toi. Et bah c'est ça qui te touche et que tu cherches.
Tu deviens tristement célèbre.
Ouais. Et ouais. Parce que déjà, je pense que quand tu deviens connu, il y a un peu un truc où chaque personne qui t'a connu raconte toujours l'anecdote qu'il peut avoir en commun, en rapport avec toi.
Quand ils vont voir les gens, les profs de primaire. Ah oui, elle avait trop chanté. Tu vois, on s'en fiche.
Ou moi je pensais, genre, je sais qu'il y a quelqu'un qui est très connu aujourd'hui. Moi j'ai failli sortir avec lui il y a des années.
Et c'est qui, c'est qui?
Mais en fait, j'ai envie de pas répéter la même erreur.
Oui, parce que du coup, c'est ce que tu dénonces.
Non, et, mais en fait, c'est là où je me suis rendu compte que moi-même, je me suis dit, mais. Et en gros, cette anecdote, j'ai pas pu m'empêcher de la raconter grave deux fois. Il y a un moment, j'étais en mode, mais meuf, lâche l'affaire, il n'y a pas de ruissellement, vous n'êtes pas en contact et tout. Et parfois, moi j'ai peur de devenir célèbre parce que je me dis, mais qu'est-ce que les gens vont raconter l'anecdote qu'ils auront sur Mao. Mais moi j'ai fait n'importe quoi les 8 dernières années. Genre, moi, c'est n'importe qui, j'ai pris de la drogue avec tout le monde. Quoi? Je rigole, je sais pas. Ça donne de savoir.
Moi, c'est plus les photos, j'étais trop moche. Hein.
Oui, bon, d'accord. Sorti, tu vois. Mon dernier fait divers, en 2016, une youtubeuse et chanteuse et performeuse qui s'appelait Christina Grimmies a été tuée, elle aussi, à bout portant, alors qu'elle est en train de performer sur scène. Genre, vraiment, la mort... terrible par un fan qui était fasciné maladivement par la jeune femme.
Et puis moi, ça me fait aussi penser quand les fans vraiment défendent bec et ongle la célébrité dont ils sont fans. Genre, c'est vraiment une défense aveugle.
Ouais.
Et du coup, j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait
le look de Tokyo Hotel, quoi.
Ce qu'il y avait psychologiquement derrière ça. Et je trouve que c'est vachement lié du coup à l'identification. Genre en gros, les fans qui défendent leur célébrité ou leur série préférée coûte que coûte, même quand la série ou la célébrité est problématique.
C'est comme Nicki Minaj.
Ouais.
Nicki Minaj, elle sort avec un homme qui a été accusé de viol plusieurs fois et qui a même fait de la prison. Et ses fans, les Barbs, la défendent bec les ongles. Alors moi, j'aime trop Nicki Minaj, on peut dire qu'elle a fait de la merde en se marrant avec lui.
Oui, mais ça t'enlève rien de.
Ouais, ils vont harceler librement toutes les fans de Cardi B alors qu'ils n'ont rien demandé, juste pour défendre Nicki Minaj.
Ouais, bah du coup, je voulais trop savoir pourquoi, à ce point-là, pourquoi ça te rend autant aveugle. On sait que l'amour rend aveugle, mais pourquoi est-ce que le fait d'être fan rend aveugle? Et bah du coup, ce que j'ai trouvé, c'est que, en gros, être fan de quelqu'un, parfois, en fait, la personne devient une extension de toi, une partie de toi, et la communauté des fans aussi deviennent une extension de toi. Et donc, du coup, lorsque certains et certaines fans intègrent leur fandom dans leur identité, ça devient tellement une partie d'elles et d'eux-mêmes qu'elles deviennent beaucoup plus sensibles aux menaces et aux critiques envers du coup cette partie de leur identité. En fait, quand on critique ou quand on attaque leur célébrité, on t'attaque toi-même.
Comme quand on parle mal d'une de tes meilleures amies et que t'es en mode en fait, ça me blesse vraiment par ricochet.
Mm-hmm. Vraiment, exactement.
Et par ricochet, parfois tu peux vivre des fantasmes. Je vais parler des fanfiction qu'elle fait en gros d'écrire une fiction basée sur des faits réels et sur la vie réelle d'une star que t'aimes. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que vous aimeriez écrire une fanfiction? Et si oui, sur qui? Sur ma mère.
Non, franchement, j'aimerais bien écrire genre sur les couples qui ont pas bien fini ensemble dans un film.
Ah, t'aimerais pas dans la vie réelle,
la fin de Titanic, tu vois.
D'accord.
Il n'est pas mort, ils vivent au Texas, ils ont des chiens, tu vois.
Oui, elle fait du cheval.
Ouais, okay. Plus
et
comme ça.
Ah, c'est mignon.
Franchement, non. Rien avec Meryl.
Bon, pourquoi pas.
En plein concert, nous nous regardons.
Je serais impliquée dans la
rien n'existe de toi.
Mais non, je sais pas trop. Mais c'est vrai que c'est mignon ce que tu dis là, d'inventer des fins un peu heureuses à des
fins alternatives.
Ouais, des fins alternatives exactement.
Mais les gens qui le font d'ailleurs pour Harry Potter, pour plein de trucs. En tout cas, il y en a une qui est très connue, c'est la fanfiction de Anna Todd, qui est une autrice américaine. Moi, j'ai jamais lu ce livre. Vous en avez entendu parler?
J'en avais entendu parler. Ouais.
C'est un livre qui s'appelle After et qui met en scène, c'est un truc en 5 tomes, l'histoire d'amour entre une jeune étudiante, Tessa Young, et son camarade de fac, Ardeen Scott, qui est un bad boy britannique, mystérieux, colérique et initialement inspiré de Harry Styles, un des chanteurs du boys band britannique One Direction.
Désolée de dire ça, mais
formé.
Il est trop surcoté.
Il est surcoté. Bah, moi, maintenant, j'aime plus ce qu'il fait. Non, mais j'ai jamais aimé, j'avoue. Par contre, on a oublié de dire un truc important qui serait peut-être notre truc de. C'est que nous, je sais qu'on peut avoir des rapports maladifs aux fans, mais parlons un peu des fans de K-pop en Corée du Sud. J'ai aucun fait à vous dire, mais je sais que là-bas, la fanfiction peut aller dans des délires de chirurgie esthétique pour ressembler à quelqu'un qui aime bien, de machin, de suivre, de trucs.
Mais je pense que c'est comme au Japon, en fait, leur culture est tellement stricte, je pense que c'est vraiment un échappatoire.
Ça raconte tellement de trucs au niveau psychologique, quoi. Enfin, c'est clairement, je pense que tu peux être fan et être fan de manière saine, mais à partir du moment où ça devient ton identité, où ça ruisselle justement sur des parties de ta vie, ça commence à être un peu chaud, quoi.
Mais surtout que souvent, il y a des chanteuses de K-pop qui se sont suicidées parce qu'on a découvert qu'elles avaient des copains ou des rapports sexuels, tellement là-bas en fait ils doivent avoir une image parfaite pour leurs fans que dès que ça vire un peu, elles le vivent très mal en fait.
Ah, dès que par exemple une célébrité sort avec quelqu'un.
Oui, parce qu'il y avait une fille, je pense qu'il y a deux filles qui sont suicidées parce qu'il y avait des images un peu sexy, mais quand on est sexy c'est pas du tout genre nu ni rien, qu'on sortit d'elles ou qu'on les a vu embrasser un garçon, et que eux doivent vraiment être disponibles pour leurs fans, minces, belles, sans attache émotionnelle, pour justement pouvoir créer cette relation avec les fans. Et du coup, dès que ça casse, elles le vivent très mal. Il y a beaucoup de harcèlement. C'est vraiment très très grave. Ils les adulent, mais au point de, en mode, si t'es pas ce que je veux que tu sois, ça va pas le faire, quoi.
En tout cas, vous êtes grave ce que je veux que vous soyez. Merveilleuse. Merci.
L'amour, le love.
J'ai auto-orgasmé.
Ok, d'accord.
Alors, pour les fans de chic lit, donc de littérature féminine, l'annonce du très petit retour de Kim Cattrall dans And Just Like That, la suite de la série Sex and the City, a vraiment dû vous émoustiller. Je sais pas si c'est votre cas, vous étiez fan de Sex and the City ou pas du tout?
Pas vraiment, moi.
Moi, si, j'ai quand même beaucoup aimé. J'avais trouvé les DVD. J'étais jeune, en plus j'avais 12 ou 13 ans, mais ça a fait un peu mon éducation mode et vite fait sexuelle grâce à Samantha, justement, à Kim Cattrall. Trop badass, trop sexy.
Oui, mais du coup, on est d'accord, c'était le personnage le plus sexy de la série.
Mais grave, moi, mon signe scorpion, c'est en fait maintenant c'est signe Kim Cattrall.
Voilà, et du coup, moi aussi.
C'est une des raisons pour
laquelle je voulais devenir journaliste, parce que je me suis dit, j'allais vivre dans une grande ville, j'allais acheter des magazines Vogue, rencontrer des beaux gosses, rien de tout ça, mais quand même. Donc quand on a su que notre mangeuse d'hommes préférée allait revenir sur les écrans, on était contents parce qu'on savait qu'il y avait des très mauvaises vibes et une mauvaise entente sur les tournages de la série. Mais on ne savait pas d'où ça venait.
Ouais. Okay.
Donc, ça a commencé plus ou moins en 2017, moi, quand j'ai su qu'il y avait de l'eau dans le gaz, parce que Sarah Jessica Parker a dit très tristement qu'il n'y aurait pas un troisième volet du film. Je ne sais pas si vous avez vu les films.
Ouais,
il y a
eu
deux films.
J'en ai vu un,
le premier, elles sont dans un mariage. Elle va se marier avec Mr. Big, là.
Ouais.
Mais finalement, il part. Après, elles vont faire les trucs, tout ça. Après, il y avait le 2. Et le 3, il n'a pas été fait. Et donc, dans l'interview, Sarah Jessica Parker dit qu'elle est déçue parce que le scénario était vraiment bien. Et donc, du coup, les gens commencent à se dire à cause de qui le film n'a pas été tourné. Et comme par hasard, 2-3 jours après, il y a eu une source anonyme, ça me fait toujours rire quand c'est une source anonyme, alors que c'est sûrement un ami de la star qui l'aime pas, a dit que c'était Kim Cattrall qui était à l'origine du non-tournage du film. Et elle n'en pouvait plus, donc elle a pris la parole, parce qu'en fait, elle n'en parlait jamais. Elle a dit, c'est bon en fait, ça fait des années que je subis ça, qu'on me fait passer pour la diva qui demande trop, alors que non. Donc là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, ce qui paraît, les interprètes de Carrie Bradshaw, dont Sarah Jessica Parker et Samantha Jones, Kim Cattrall, se détestent depuis le début.
Okay.
Et d'où ça vient? C'est parce que Sarah Jessica Parker, à ce qui paraît, est une peste. Comme dans Mean Girl, elle a essayé de montrer tout le monde contre Kim Cattrall. Pourquoi? Parce qu'à ses débuts, donc au début de la série, c'était Kim Cattrall la star. Elle avait fait 2-3 films qui cartonnaient. Elle était blonde, elle était pétillante, elle était sexy et son personnage était trop charismatique. On voulait tous être la copine de Samantha Jones.
On voulait être la copine de...
Et donc du coup, comme Samantha, normalement la personne principale et l'héroïne, c'est Sarah Jessica Parker, et elle a vu ça comme une réalité. Ouais. Okay. Et donc du coup, au lieu de prendre exemple sur elle et de se dire, attends, je vais essayer de la recopier un peu pour avoir un peu plus de peps, elle a essayé de montrer tout le monde contre elle. Donc elle a commencé par les deux co-stars, donc celles qui jouent Charlotte et Miranda. Elles ont commencé à faire un clan à trois contre Kim Cattrall. Ça a été un peu loin parce que même parfois, quand elles avaient des tournages, elles louaient des maisons à trois et laissaient Kim Cattrall toute seule dans une maison.
Elle a été bullied comme t'es au primaire, mais pendant des années de tournage, parce que ça a été 10 ans au moins de tournage.
Oui, donc mais c'est même pas que elle, il y avait aussi toute la prod, les coiffeurs, les maquilleurs, personne n'adressait la parole à Kim Cattrall. Et donc Kim Cattrall, elle a voulu quitter plein de fois, mais on lui a dit, écoute, c'est un personnage principal, on va te rajouter de l'argent, parce qu'elle se disait, attendez, tout le monde m'aime bien, mais pourquoi mon salaire n'est pas aussi haut que Sarah Jessica Parker? Donc elle a dit, pourquoi je continue? En plus, on me bully. Donc chaque fois, on essayait de lui remettre un peu d'argent dans son vin. Ça se dit pas, non?
Ouais. Mais c'est très belle expression. Je veux bien que quelqu'un mette de l'argent dans mon vin bientôt.
Donc voilà, pour qu'elle continue à venir, et elle a accepté, mais au troisième film, elle a dit, c'est bon, c'est niette, en fait. Ouais. J'ai assez d'argent, j'ai 60 ans, voilà. Je préfère. Elle a même dit, ça m'a rendu triste, c'est qu'elle a pas eu d'enfant à cause de la série. Donc elle disait, en fait, pendant 10 ans, elle faisait que tourner.
Elle pouvait pas tomber enceinte?
Non, elle faisait que tourner. Elle avait pas le temps. Elle tournait les week-ends, elle tournait tous les jours, elle tournait les soirs. Donc elle a dit que c'est sa vie est devenue la série. Elle a regretté un peu après la série où les gens la boulident. Et donc, moi, ça m'a un peu choquée parce que ce qui est un peu rigolo, c'est que dans la série, tout est sur la sororité, en fait.
Oui.
Le fait que les amis sont plus importants que l'amour, le fait que les amis peuvent vraiment te sauver de la dépression, de ci, de ça, te motiver et savoir que tu joues des femmes fortes, des femmes solidaires alors que t'es une petite pétasse. Pourquoi, en fait? Et donc, du coup, ça a été je suis choquée par vraiment Sarah Jessica Parker. Je trouvais qu'elle était chouette et surtout qu'elle arrivait avec un physique atypique parce que vous savez, à Hollywood, si tu veux être la romantique ou la fille qui est aimée par le personnage principal, faut que tu aies un peu un physique. Et comme elle avait un nez, faut dire elle a un pif, on va me dire elle a un vrai pif. Et donc du coup, c'était un peu dur. Et le fait qu'elle soit venue, qu'elle soit restée avec son physique, ça m'a vraiment plu. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, attends, mais quelle connasse en fait. Donc du coup, nous, ça nous a fait mal parce qu'on s'est dit qu'elle jouait vraiment des meilleures amies qui se considéraient comme des sœurs dans la série, mais elles se détestaient dans la vraie vie. Elles ont même été au Emmy Award assises à trois sans Kim Cattrall. Donc,
c'est vraiment ça, en fait, c'est dur.
Ce qui est difficile, c'est que déjà, c'était difficile pour elles sur la série, mais en plus, comme elles le font dehors, les gens parlent et ils leur posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a avec Sarah Jessica Parker? Qu'est-ce qu'il y a? Et comme elle répondait jamais, on la prenait pour la bouc émissaire. Donc, moi, je suis contente qu'elle soit revenue selon ses termes. Donc, elle sera de retour dans la saison 2. Dans le dernier épisode de End Just Like That, mais elle ne voulait voir ni l'équipe, donc ni les filles, ni le showrunner, parce que ça s'y paraît, il était du côté de Sarah Jessica Parker et qui l'a aussi malmené, donc le producteur. Et elle voulait avoir un paquet de fric, ce qui est normal, selon moi.
Je comprends très bien.
Donc voilà. Donc, pour un petit spoiler, elle sera juste en cabine téléphonique en train de parler avec Carrie Bradshaw et on la verra de loin. Elle sera à Londres et les autres seront à New York.
C'est tout ?
C'est tout.
J'espère vraiment qu'elle va être payée 1 million pour ça.
Ah, moi aussi.
J'espère aussi.
Moi aussi.
Bon, donc, merci Koumbis.
De rien.
Aujourd'hui, pas de sorcellerie, mais une évangélisation. C'est-à-dire qu'au lieu de condamner quelqu'un, Koumbis, je vais évangéliser quelqu'un.
Okay.
Pour faire en sorte qu'il aille au paradis, puisque tout le monde le mérite. Et aujourd'hui, je vais parler de Oshi, la super chanteuse. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est,
si
vous l'écoutez.
Oui, bien sûr.
Oshi, donc sublime chanteuse, dont Fabien Lecoeuvre l'avait qualifiée à l'époque à la télé d'effrayante, disant que ses chansons étaient superbes, mais qu'elles devraient être chantées par d'autres. Et il lançait, genre, vous voyez, elle est vraiment pas belle, genre, vous avez des poster d'Oshi chez vous. Et après, je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait plein de gens du coup qui mettaient des photos d'eux en mode genre, bah
avec
oui,
des posters, ouais.
Absolument. Et moi, j'avais une question, c'est que, mais toi, Fabien Lecoeuvre, qui a un poster de toi dans sa chambre? Je sais pas, tu vois qui c'est Fabien Lecoeuvre?
Pas du tout.
Mais moi
voilà,
non plus.
Exactement.
Et ben voilà.
On connaît Oshi, mais pas lui, ça dit tout ce qu'on doit savoir.
Là, c'est un journaliste méchant qui pense que la beauté est nécessaire au talent, en tout cas sa forme de beauté. Mm. Oshi, donc, qui était en pleine ascension, ensuite est nommée aux Victoires de la musique en 2020 et elle performe sa chanson Amour Censure, qui est une chanson très effrayante pour les haters, puisqu'elle fait l'éloge de l'amour libre, pluriel, avec tout le monde, et notamment, elle parle de son amour lesbien dedans. Et à la fin de la perf, qui était sur France 2, donc tu sais, c'est toujours un peu un show, elle fait un petit bisou à une danseuse. Enfin, non-événement, tu vois. Genre, moi, j'ai vu ça, j'ai éteint ma télé, et puis j'ai continué ma soirée en me disant genre, qu'est-ce qu'elle est chanceuse, la danseuse. Eh bien, ce soir-là, il y en a d'autres qui ont éteint leur télé, qui étaient en mode genre, ah, je veux tout casser. C'est ce mode, moi aussi, je veux faire des bisous à une danseuse, je suis trop malheureux, donnez-moi un téléphone, que je le dise à cet artiste. Et elle a reçu des milliers de messages de haine, d'appels au viol, d'agression,
oh là là.
Avec des menaces qui paraissaient bien palpables et réalisables. Du coup, elle a porté plainte contre la plupart de ces gens-là qui, cachés derrière des pseudos, sont difficiles à attraper pour la police. Du coup, il n'y a qu'une seule personne qui a été retenue pour un procès qui vient d'avoir lieu 3 ans après les faits, une seule personne. Et du coup, la chanteuse a fait un message sur Instagram pour dire qu'elle pouvait pas y aller et qu'elle était désolée de voir qu'une seule personne était retenue sur des milliers. Et ce mec, en plus, c'est un nobody, c'est un mec qui s'appelle Maël, qui a 21 ans, t'imagines, ça veut dire qu'il avait 18 ans, elle est trop bizarre, le visage de la nouvelle haine, quoi. Il a écopé de 8 mois de prison, mais en fait 6 mois avec sursis, donc en fait il fera que 2 mois, mais en fait comme il y a une surpopulation, il va faire 2 jours. Et donc je trouve que ça révèle en tout cas une grande inaction policière, le fait que la justice est menottée par plein de trucs administratifs qui fait qu'on ne protège pas les gens, et que pour tout ça finira une artiste sacrifiée. Et je voulais qu'on dise courage à Oshi, et que nous on ne censurera pas notre soutien. Oui, je vais faire une métaphore filée avec toutes ces chansons. Oshi, on aime ta marinière, et même après on t'aimera. Voilà, c'est la fin.
Oh là là.
Bisous Oshi.
Bisous, Oshi.
C'est quoi ta reco?
Whatever.
Franchement, c'est vraiment hyper niche.
Je l'ai vu sur Twitter.
J'ai pas envie d'être méchante.
Mais j'adore. C'est l'heure de la reco intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Pas d'élitisme culturel ici cette semaine. Je ne vais pas vous parler d'un essai politique. Je ne vais pas non plus vous parler d'un film d'auteur ou d'autrice ou d'une pièce de théâtre contemporaine. Je vais vous parler d'une émission de télé-réalité, Ultimatum Queer Love. C'est la version LGBT d'un célèbre dating show qui s'appelle donc Ultimatum et qui est diffusé sur Netflix. Alors voilà le topo, des couples de femmes et de personnes non-binaires effectuent un voyage de 8 semaines où il et elle se retrouvent à un point critique de leur relation. L'un ou l'une est prête à se marier et l'autre non. D'abord, je trouve important de vous rappeler que pour moi, la télé-réalité c'est un divertissement, ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde, certes, mais moi en tout cas je ne supporte pas qu'il y ait une hiérarchisation un peu des objets culturels, oui, de tous les programmes télé. Pour moi, c'est hyper classique.
C'est divertissant, c'est marrant.
Mais oui,
il faut le dire.
C'est voilà. Tu vois, avoir un truc profond sur l'univers.
Bah, Mario, au premier regard, c'est bien. Voilà.
Exactement. C'est classique, c'est élitiste. La télé-réalité, en plus, c'est souvent considéré comme de la télé-poubelle. On dit que ça répond aux goûts et aux intérêts des masses, des individus surtout qui font partie de la classe ouvrière populaire. Et du coup, il y a un gros jugement hyper condescendant à propos de tout ce genre-là. Donc, moi, je ne suis supporte pas ça. Il y a aussi le fait que les participants, participantes de la télé-réalité proviennent souvent d'horizons divers, donc y compris de ceux qui ne se conforment pas aux normes et aux attentes de la société hyper traditionnelle. Et donc, par conséquent, il y a beaucoup de généralisations, de stéréotypes sur les participants, participantes. On les associe souvent à des statuts socio-économiques inférieurs. Mmh. On dit qu'ils manquent d'intelligence, qu'ils manquent de classe. Donc voilà, moi j'avais envie de dire fuck that. La télé-réalité, effectivement, ça peut être très toxique et problématique, mais comme un peu tous les programmes, en fait. Donc,
comme l'Assemblée nationale aussi.
Exactement, voilà. Donc, pourquoi plus critiquer la télé-réalité que d'autres choses ? Je ne vois pas pourquoi. Donc, je trouve que c'est un concentré hyper condensé de relations humaines. Moi, ça me divertit beaucoup. C'est un échappatoire de temps à autre, franchement. En revenant d'une journée difficile, ça permet un petit peu de se détendre. Donc, pour en revenir à Ultimatum version queer, dans l'émission, comme d'habitude, il y a 5 couples et dans chaque couple, il y a une des personnes qui veut se marier et l'autre non, comme je disais tout à l'heure. Donc, un véritable ultimatum est lancé. Tu m'épouses ou je me casse.
Déjà, parce que ça va pas beaucoup dans ton couple, mais ok.
Oui, je vais y revenir tout à l'heure, c'est pas très sain, mais voilà. Chaque couple a 8 semaines pour se décider et chaque couple se sépare et a la possibilité de sortir avec d'autres candidats, candidates, pour justement découvrir s'il n'y a pas quelqu'un d'autre, en fait, qui serait plus compatible. Ouais, ouais. Et donc, comme je le disais, c'est pas très sain. Ouais. Donc, autant vous dire qu'il y a pas mal de drama et que c'est très distrayant.
Mais là, en plus, queer.
Voilà, exactement.
C'est
qu'avec la nouveauté.
Des meufs ou des personnes non binaires.
Voilà, la nouveauté, c'est que c'est queer et donc c'est que des participants, participantes queer. Et pour cette saison-là, c'est que des personnes, donc soit des femmes, soit des personnes non binaires.
Donc drama queen.
Drama queen à fond. Exactement, tu l'as deviné. Pour vous donner quelques exemples de couples d'ultimatum pour cette saison-là, il y a Yoli et Mal. Alors j'ai un gros crush sur Mal.
Allez voir Mal. Partagez pas franchement. De la prod.
Exactement. Alors, dans ce couple-là, Yoli veut passer à l'étape supérieure de leur relation, mais Mal veut être financièrement stable et prête pour franchir le pas. Compréhensible, hein, oui. En vrai. Il y a aussi Mildred et Tiff qui me donnent vraiment des nœuds au cerveau parce qu'elles ne peuvent pas communiquer sans crier. C'est infernal. Et voilà, il y a d'autres couples, mais je ne vais pas tout vous spoiler. Il y a beaucoup, beaucoup de rebondissements, beaucoup de triangles amoureux, de larmes, de scènes aussi très hot. C'est pas toujours la meilleure des représentations pour les personnes queer, mais il y a une variété de profils. Et justement, moi, je me posais la question, quelle est la représentation des personnes queer dans la télé-réalité ? Et globalement, c'est pas ouf. Globalement, en fait, c'est des émissions de télé-réalité qui favorisent, en tout cas dans le dating, des relations hétérosexuelles, avec des représentations hyper sexistes, très binaires du dating. Et jusqu'à maintenant, la télé-réalité, elle perpétue pas mal de stéréotypes autour des personnes queer, en particulier des hommes gays. Voilà, il y avait soit voilà, le stéréotype... c'était des stéréotypes hyper unidimensionnel qui se concentrait beaucoup sur l'excentricité de la queerness. C'était vraiment le sensationnalisme. Bon, après, c'est assez commun dans le genre de la télé-réalité puisque ça transforme un petit peu tout en spectacle.
Oui.
Mais là, c'était vraiment particulièrement prégnant pour les personnages queer. Je pense par exemple à Queer Eye ou Drag Race.
Oui, c'est à Queer Eye auquel je pensais.
Exactement. Ou par exemple Queer Eye, c'est vraiment la popularité du relooking et du style. En fait, c'est vraiment le stéréotype de l'homme gay qui est stylé, qui sait s'habiller, qui habille les autres, gourou de la mode, etc. Et dans les dating shows, sur MTV, j'ai regardé en 2007 et 2008, donc c'était il y a un petit bout de temps quand même, il y avait A Shot at Love avec Tila Tequila. C'était la copine. Première. Ah ouais ?
J'aime trop.
Okay. Ah ouais ?
C'était la première émission de télé-réalité bisexuelle, similaire à un peu le Bachelor. Il y avait 15 candidats masculins hétéros et 15 candidates lesbiennes. Et ça a beaucoup été décrit comme une télé-réalité qui brisait les barrières de la sexualité dans la télé-réalité. Mais à mon sens, ça a plutôt renforcé la sexualisation et la fétichisation des lesbiennes et des bisexuels. En gros, c'était pas vraiment une télé-réalité qui était par et pour les queers, mais plutôt ça renforçait des fantasmes pornographiques pour les hommes hétéros, en fait.
Oui, d'accord.
Okay. Et il y a eu aussi, il n'y a pas très longtemps, un essai Are You The One saison 8, il y a quelques années. Mais il n'y a pas eu un grand succès. En fait, je trouve que le vent semble tourner, puisqu'il y a pas mal de gens qui, là, cette fois-ci, ont un peu apprécié la version queer de Ultimatum. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et moi, je trouve ça cool, en tout cas, pour se distraire. Ça change des dating shows hyper hétérocentrés. Enfin, on en a vraiment soupé, tu vois, des couples hétéros. C'était un peu boring. Et là, ça renouvelle un petit peu le genre. Mais finalement, je me demande si on doit vraiment se réjouir pour le fait que, voilà, il y a plus de représentation des personnes queer, ou alors pleurer, parce que ça nourrit toujours le fantasme d'un mariage hyper hyper traditionnel qui résoudrait tous les problèmes du couple, même dans les relations queer. En tout cas, je vous encourage quand même à y jeter un œil parce oui. que c'est assez cool de voir des lesbiennes à l'écran. Il y a des relations toxiques dedans, je ne vais pas vous cacher, mais ça distrait. En tout cas, moi, ça me fascine.
Bah, merci Audrey.
Mais j'en profite juste pour faire, du coup, on est dans le moment reco culturel, oui. me faire un petit moment d'autopromo.
Absolument, tu es notre reco.
Voilà, no shame.
Culturel.
Et du coup, ce week-end, donc le 10 et le 11 juin, il y a le festival Burning Woman, qui est un festival féministe qui aura lieu à la Bellevilloise. Et je vais, avec d'autres artistes, exposer et vendre des tirages d'illustrations et de photographies. Si vous voulez passer, me faire un petit coucou. Est-ce que Mao, oui. toi, tu veux faire un petit moment aussi d'autopromo?
Oui, s'il vous plaît. Mais avant tout, passer à la Bellevilloise. Et moi, je voulais vous réinviter au gala queer que j'organise avec la Mutup, qui est la scène de stand-up à la Mutinerie. Et le Comedy Love que j'ai confondé avec Tani et Noam à l'Européen. Voilà, donc c'est un 350 places. On redonne tous les fonds à la Pride des banlieues. Et je crois qu'il reste une petite centaine de places. Alors venez, faisons la fête, aimons-nous les uns les autres, les uns dans les autres. Mais on se protège, on n'oublie pas.
Et c'est quand ça?
C'est lundi 12.
Ok, très
lundi
bien.
Lundi 12 à l'Européen. Et sinon, je serai au Festival d'Avignon cet été. S'il y en a ici qui sont avignonnais, avignonnaises ou qui veulent y passer, je jouerai mon spectacle du 8 au 18 juillet au Théâtre des Béliers.
Trop bien. Je suis fière de vous. Vous faites des choses.
Et toi? Alors, c'est quoi ton actu, baby?
Ben, je ne fais rien. À part, j'ai commencé un blog.
Ouais,
comme j'aime trop la chic lit, je voulais écrire un livre sur les femmes noires. Oui. Et donc, il s'appelle Comment devenir une femme noire épanouie. Oui. Et du coup, je vais écrire des pages de temps en temps et j'aimerais que d'ici un an, ça fasse un livre.
Et ben, on espère, donc, on va voilà. t'encourager en tout cas là-dedans.
Bien, ouais, ça me force à écrire autre chose pour, que pour le travail. Et c'est important parce que je me dis, j'ai pas envie que ma passion soit juste. Pour l'argent, où est-ce que
oui,
je veux dire?
Bien sûr, il faut que donc, tu t'épanouisses voilà. carrément, dans lesquelles ouais. tu te réalises.
Mais entre les biberons et ça prend du temps, mais ça me fait du bien d'écrire pour moi.
Et trop, bah, bien. Ouais. Trop, trop beau projet. En tout cas, à la fin de cet épisode sur les fans, j'allais dire que moi, je suis fan de vous deux.
Oh.
Et merci à tous nos éditeurices d'envoyer du love, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on continue et qu'on est ouais. heureuse de faire ce podcast. Et tant que c'est dans les limites de la loi, eh bien, continuez à nous envoyer des messages. Avec la sortie d'Ultimatum Queer, c'est peut-être le moment de recontacter le fameux ex avec qui on partageait un code. Et maintenant, depuis le 1er juin, je sais pas si vous savez, m'ont plus partagé de code Netflix.
Du en coup, fait, chaque, le code une fois d'un par ex. Mois, tu dois retourner chez toi pour prouver que tu habites bien chez toi, en fait. Ah. Donc, ouais, tu dois retourner chez toi, te connecter dans ta maison okay. ouais, primaire, si je peux dire.
Ouais, ou de la personne. Moi, du coup, je sais que je vais envoyer un message à mon ex pour me dire est-ce que
comme
je peux t'envoyer
hein. Ah non, excusez-moi, elle est amoureuse, elle a trouvé l'homme de...
Non, oui, non. j'allais dire, soyez la Samantha de vos vies. Assumez-vous, écrivez des livres sur les femmes noires épanouies et just like that, vous serez des stars.
Ouh.
Du coup, à jeudi prochain dans Les Mains dans la Pop, je vous embrasse.
Salut tout le monde, bye bye.
Salut, à très vite.
Les Mains dans la Pop est une émission de nouvelles écoutes, animée par
Mao Drama,
Kumbi Soploi
et Audrey Coupé de Kermadec, produite par Julien Neuville, montage, mixage et enregistrement par Livio Boulanger au studio Artistique Palace, directrice générale adjointe Nora Issem, directrice artistique Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon, directrice commerciale Emmanuel Fortunato, chargée de production Cassandra de Carvalho, assistante de production Nella Acmi.